Bonjour, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno.
Bonjour Rick, ça va
Ça
bien?
va très bien. On est encore aujourd'hui avec Étienne Tremblay.
Salut les boys.
Salut.
Salut.
Le dernier épisode, on avait vu pas mal de choses au niveau comment se créer un compte avec VSTS et puis comment créer son build et puis comment aller chercher l'output de son build. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin vers ça. On va essayer de déployer ça puis voir ça live, comment ça se déploie sur le cloud.
Parfait. Ça a bien de l'allure. Donc,
OK.
on va enlever ça. Si vous vous souvenez, on était rendu là. Je vous ai montré un peu le sommaire, je vous ai montré un peu le payload, dans le fond, les artefacts qui sont produits par ça. Puis quand on regarde notre sommaire ici, on voit en bas qu'il y a une petite affaire qui n'est pas très visible quand on la regarde comme ça. Je vais peut-être essayer comme ça. Et puis on voit que il dit No deployment found for this build. Donc, il dit, t'as pas rien déployé avec ce build-là. Donc, peut-être que tu aimerais ça déployer quelque chose. Donc, là, j'aurais pu partir, puis, tu sais, un peu vous montrer là, la section release, tout ça. Je vais vous la montrer, mais on va partir d'un output de build, puis on dit, ben c'est ça,
C'est
c'est que je
celui-là qu'on va
veux, c'est lui que
déployer.
je veux releaser. Okay?
Donc, pas besoin de juste downloader nos fichiers puis essayer de s'arranger de notre base
Ah, non,
sans trop être sûr de
non.
ce qu'on fait, parce qu'on reprend l'exemple du dernier épisode que le développeur, il aime pas ça, ces affaires-là, il n'est pas sûr de ce qu'il fait.
Exact.
On veut que ça soit facile.
On veut que ce soit facile. Puis là, le cas qu'on va présenter ici maintenant, ça va être un cas où on va déployer dans Azure. Okay? On va déployer le site web dans Azure Website, dans le fond. C'est ce qu'on veut faire.
OK.
Mais si on voulait le déployer à l'interne, on peut croire que ça marche-tu, ça, déployer avec ça à l'interne? Donc, si vous vous souvenez, quand on parlait des builds, on peut installer un agent local, puis on peut lui dire va chercher le build, tout ça, puis il est local sur une machine que nous, on a. Bien, l'agent de release, puis l'agent de build, c'est le même agent. C'est la même chose.
OK, fait
OK?
qu'on pourrait parler à notre agent de build qui ferait notre release aussi sur notre
Tout à fait.
infrastructure
Fait que là,
locale.
dans le fond, on a des modes. Microsoft est en train de mettre ça à jour un petit peu, où est-ce que on a plusieurs modes de release. On peut dire, puis la manière par défaut, là, ce qu'on va faire là, ça va être le mode default, OK? Qui est, j'ai un agent, donc l'agent, il va rouler dans la machine hostée, on avait tantôt. Donc, il roule dans le host, puis là, ça dit de là, tu veux déployer ton site web. Donc, cet agent-là, il roule déjà dans Azure. Il roule déjà dans l'infrastructure de Microsoft. Donc, de dire, de partir de là, puis de déployer dans un site web Azure, pas de trouble. Ça marche, il est heureux, là, il fait sa job. Si je pognais le host encore, puis je disais, déploie chez nous, j'ai un problème. Parce que le hosted agent, il ne connaît pas notre machine chez nous, puis il ne veut pas déployer le site web chez nous. À moins que c'est un site FTP, puis on fait juste domper des affaires. Mais ouais, tu sais, c'est un peu louche, là, tu
Il
sais.
faut configurer IIS, il faut configurer
Il y a
des
plein
choses,
d'affaires,
là.
OK? Donc là, tu sais, potentiellement, c'est pas nécessairement ça qu'on veut faire. Fait que là, l'autre mode, ce serait de dire, je veux installer un agent sur ma cible, puis je vais envoyer le build à la cible, puis là, je vais rouler des affaires locales comme, je sais pas, moi, créer un répertoire, faire des copies, tout ça, OK? Donc là, je suis en train de faire des affaires, je suis en train de dire à l'agent là-bas, fais quelque chose local, versus le défaut qui est ici, qui est l'agent est là, puis lui, il déploie là-bas. Donc, moi, si je voulais déployer, je voudrais créer des répertoires là-bas, il faudrait que je fasse du remote PowerShell là-bas. OK? Puis du remote PowerShell, si vous en avez fait un petit peu, là,
Ouais, c'est
c'est
pas.
assez ardu. La sécurité, là, ça ne marche
Il
pas
faut
tout le
tester
temps.
WinRM puis toutes les
Exactement.
patentes-là
Ça ne
avec la
marche pas
clé, puis c'est
toujours,
pas
puis
évident,
bon, ces
effectivement.
affaires-là. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va prendre l'agent hosté, puis on va lui dire, vas-y, puis déploie ça dans un site web Azure. OK?
Ce sont la façon facile et
La
rapide.
façon facile, puis à la limite, quand tu commences, puis là, j'ai pris, encore une fois, tout gratuit, bien, je pourrais, à la limite, prendre
Un website gratuit.
un trial Azure. Je pense qu'ils sont gratuits, les
Ben,
websites,
tu peux
même.
faire un website, un free tier
C'est
de
ça,
website.
exactement. Donc, je pourrais faire ça aussi.
Exact.
Et puis, donc, on pourrait continuer, dans le fond, de notre aventure avec tout du matos gratuit. Moi, je vais le déployer sur mon tenant à moi, Azure, là, mais à la limite, ça pourrait être dans n'importe lequel. On va voir. Donc là, ici, quand j'ai dit, je veux créer un nouveau release, on arrive sur cet écran-là. Il dit, tu veux créer un nouveau release, qu'est-ce que tu aimerais faire? Donc là, je pourrais dire que je veux faire un app service. Je pourrais faire un app service avec des tests de performance. Je pourrais faire un app service avec des slots différentes.
Donc ça, c'est avec une version staging, une version prod que tu peux swapper live
Exactement.
quand tu veux
Okay?
swap.
Donc là, il fait tout ça pour nous. App service deployment avec des tests. Puis là, cloud service déploiement. Si je descends en bas un petit peu, on a service fabric. Des affaires PSP, etc., etc. Puis le dernier en bas, c'est empty. OK? Donc, si on fait ça local chez nous, on voit qu'il y a bien des affaires qui ne nous intéressent pas. Okay? Donc, PSP, Service Fabric, Azure, hey, comment je fais pour déployer chez nous dans ma machine? Okay? Ben, je prendrais MT et on le fait à bras. Là. Okay, ouais, je vais okay. vous montrer. Mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, on s'en va avec Azure. Donc, moi, je vais tout simplement choisir celui-là. Je pourrais choisir avec des tests de performance. Il nous rajouterait la tâche de performance. Puis si on est tous branchés dans Azure, on peut rouler des load tests dans Azure avec des machines dans Azure qui vont frapper notre test. Okay? Donc, encore une fois, c'est tout intégré pour nous. Si je ne le choisis pas, on peut l'ajouter après. Okay? Ce n'est pas un problème. Donc là, je vais choisir, on va juste déployer ça. Donc là, encore une fois, notre écran tout à l'heure. Est-ce qu'on veut déployer avec Jenkins? Donc, je pourrais choisir Jenkins comme mon engin de déploiement, si je voulais. Je peux choisir le build. Build, c'est l'agent, le même agent là, qu'on fait. Ouais. Ou je peux choisir plus tard, là, qu'est-ce que je vais faire. Ben, dans mon cas, je vais prendre build. Là, il nous dit, on va être dans le projet Bracket Show. C'est là qu'on était tantôt. Puis, par défaut, étant donné que j'étais dans le résultat du build de Bike 360, ben, il nous dit, ben, c'est celle-là que tu veux déployer, puisque c'était là que j'étais. Okay? Si je n'étais pas là, je pourrais choisir un drop-down puis choisir mes autres build definitions si j'en avais d'autres. J'en ai juste une, c'est ça. Là, on a un petit crochet là qui dit « Hey, by the way, ça te tente-tu de setter du CD aussi? » Donc, tantôt, on parlait de CI, CD, donc DevOps, tout ça. Donc, le CI, on l'a défini tout à l'heure, c'est je fais un check-in, ça part un build, ça roule mes tests, ça valide que tout est beau. Donc, ça, c'est du Continuous Integration. Ça valide, ça intègre à chaque fois qu'on fait des check-ins. CD, dans ce cas-là, Continuous Deployment. Donc là, quand je vais choisir ça, si je le cochais, quand je ferai un check-in, ça roulerait mon build. Si tout est beau, il va l'envoyer au release puis il va déployer directement dans le premier environnement. Okay? Dans l'environnement, on va parler des environnements tantôt, là, mais il va déployer dans le premier direct. Pow! Il irait en dev, mettons. On l'appelle dev. Il irait en dev, ne posera pas de questions. Bang! Okay? Donc là, on est rendu bien plus loin. Là, parce que là, on a dit, je fais un check-in, ça crée mon build, ça valide que tout est beau. Puis en plus, ça le déploie sur le site web puis je peux aller le tester live là, sur le site web. Là. Donc, c'est pas mal plus le fun que « Hey, Roger, tu peux-tu déployer le site web là-bas? Puis là, le build, il est là, puis je sais pas trop qu'est-ce que tu fais, ta magie noire. » Regarde, on le fait là, puis la magie noire de Bob, bien, il peut venir la faire ici, lui. Ouais. Au moins, après ça, tout le monde va l'avoir, la magie noire. Il va savoir qu'est-ce qui se passe pour déployer. Okay?
Une question pour toi, comment ça s'intègre, ça? Parce que moi, j'ai déjà fait des sites web dans Azure, puis dans Azure, tu as aussi des options de Continuous Deployment aussi, tu as des pipelines de déploiement. Mm-hmm. Est-ce que c'est le même principe, mais c'est juste une autre façon d'y accéder? Est-ce que ça va créer un pipeline de déploiement dans Azure ou si ça va juste, c'est ton build agent qui va faire la job dans ce cas-ci?
Dans ce cas-ci, c'est pas intégré avec les pipelines de Azure.
OK.
OK? C'est vraiment, vous allez le voir, on va la créer, la pipeline, nous, là, puis c'est tout dans RM que c'est géré. Par contre, quand il l'envoie dans Azure, bien, il fait la commande dans Azure pour le faire.
Okay.
Mais il ne sert pas des pipelines d'Azure. Les slots, c'est Azure, par exemple. Je pense que le mettre dans un slot ou un autre. Donc, ça enable le slot mode où est-ce qu'on peut faire là, les affaires qu'on veut. Mais ultimement, c'est ça qu'on va faire tantôt, là. Moi, je vais utiliser un template ARM. Okay, un Azure Resource Manager template, puis je vais lui dire, crée-moi un site web avec un tenant qui s'appelle ça, machin. Donc moi, j'ai ma configuration as code, dans le fond. Ma configuration, c'est du code. Puis elle fait partie de mon build, puis elle fait partie de mon check-in. Fait que si je la modifie, bien, il va scraper le site web qui est là, puis il va le refaire.
On va le refaire.
Okay? Avec les nouvelles affaires.
Okay.
Okay? Puis ça, c'est ultimement, là, c'est là-dedans qu'on s'en va. On ne veut pas avoir à gérer des configurations de système. Puis le problème, quand on va chez des clients, vous avez probablement les mêmes problèmes que moi quand je vais chez les clients, c'est que tu leur dis, qu'est-ce qu'il y a sur ta machine de prod? Ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée. Est-ce qu'il y a 40 personnes qui se logent, puis ils changent, ils rajoutent de la sécurité, ils disent, celui-là, c'est read-write, puis lui... C'est tout magique.
Je dirais même que même ceux qui ils disent qu'ils le savent, ils le savent pas.
Je suis d'accord avec toi, Eric. En plus.
Même s'ils le savent, tu essaies de prendre, dire OK, c'est ça, tu essaies de faire ça ailleurs, puis il manque trois affaires
que tu n'as pas. Exactement. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas que personne se logue. Jamais. Personne se logue. Donc, quand on fait nos affaires, on fait notre configuration SQL, puis on dit tiens, Azure, c'est ça que je veux. Puis si ça ne marche pas, on l'arrange dans notre configuration, puis on le repousse après, jusqu'à temps que ça marche. Puis là, on sait exactement qu'est-ce qu'il y a là. À tout moment, c'est codé, c'est dans le version control, on a une idée de ce qui s'est passé. Mm-hmm. OK? Donc, c'est là qu'on s'en va.
Il y a une question que j'aurais peut-être un peu en lien avec ce qu'on a vu dans le dernier épisode, mais tu sais qu'on avait l'historique des changements que tu faisais au niveau de ta configuration.
Yes.
Est-ce qu'on va avoir le même genre d'historique au niveau de la config de release?
Qu'est-ce que tu penses?
Probablement. J'espère. Parce que justement, on parlait de tout le monde qui peut jouer avec ces choses-là. Si quelqu'un vient briser mon déploiement, je veux le savoir. Je veux...
Tu vas pas être content.
Non.
Tu vas vouloir lui dire.
Ben, non. Oui, c'est ça, exactement.
Tu vas pas content, tu vas vouloir lui dire.
C'est ça, je veux savoir.
J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Je te le dirai pas, mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi.
OK, on va voir tantôt.
Je vais cliquer sur « Create » ici. Puis là, il va nous amener, vous allez remarquer, dans une définition de « Release ». Okay, il est en train de la créer, là. Et puis, vous allez remarquer tout bonnement, comme on était dans le build tout à l'heure, que ça se ressemble en maudit. Hein? Il y a des tâches ici. Si je fais « Add task », on a le même dialogue. Regardons ça, avec les mêmes tâches. Hmm. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe ici, essentiellement? Ce qui arrive, c'est que Microsoft a fait cette grosse transition-là vers le build et release. On va appeler ça le build and release V-Next, la nouvelle génération, okay? Avec les tâches. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont fait le build en premier. Okay? Puis après ça, le release n'était pas là. Il avait acheté la compagnie à Cloud, le produit de Cloud, InRelease.
Ouais.
Okay, il avait acheté le produit de Cloud, de InRelease. Puis là, c'était comme le stop gap avant qu'il y ait ça, qu'on est en train de regarder là. Donc là, ce produit-là, ben, le monde s'en a servi plus ou moins. Là. On ne parlera pas là, de ce produit-là particulièrement. Mais là, dans l'entrefait, ils ont sorti avec TFS 2015, ils ont sorti les nouveaux builds. Il n'y avait pas de release, il y avait juste build. Puis là, bien, le monde se servait des tâches. Je trouvais ça super facile. Hey, c'est le fun, ça. Donc là, ils ont rajouté des tâches pour déployer aussi. Avec le build. Fait que le monde faisait le build, puis à la fin, il draguait ça. Il draguait ça, puis il déployait en même temps. Ça allait bien. Hey, c'est le fun, ça marche. Fait que là, bien, évidemment, le plan, c'était pour que ça c'était pour être conjoint, puis que c'était pour être le même agent, puis faire les mêmes affaires. Donc, essentiellement, on a les mêmes tâches. Donc, si on récapitule, je pourrais venir ici, dans la portion release, je pourrais faire un build et releaser. Je pourrais les six tâches qu'on avait au bord, là, je pourrais les draguer ici.
Donc, au lieu de releaser un output de build, tu pourrais rebuilder un output et le releaser.
Exactement. Okay? Je pourrais. C'est le même agent, il fait les mêmes affaires. Okay? Mais il faut faire une distinction avec nos auditeurs que le build, c'est une chose, le release, c'est une autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mixe les deux ensemble. Okay? Mm-hmm. Donc, quand je fais un build, je fais un output. Un container, je peux le mettre sur un CD, je peux l'envoyer à 1000 personnes, tout ça. Ils font ce qu'ils veulent avec. Ils ne l'ont pas déployé, peut-être qu'ils le déploient, peut-être qu'ils ne le déploient pas. Comment ils le déploient, je ne sais pas.
Avoir des tests, une phase de validation avancée.
Okay? Puis les releases, c'est je prends un contenant de quelque chose, dans notre cas, c'est Byte 360, puis je veux l'envoyer quelque part. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer dans Azure. Mm-hmm. Okay? Donc par défaut, ils nous donnent la première tâche qui est ton site web que tu as dans Azure, ben, il va falloir que tu te connectes dans Azure.
Hein? Avec ta subscription.
C'est ça. Fait que là, je vais prendre ma subscription d'Azure. Je vais prendre celle-là ici. Je vais l'autoriser. Puis, je me suis fait pogner une couple de fois dans des démos avec ça. Parce que Google, notre ami, il n'est pas content quand il voit des pop-up. Hein? Fait que il cachait, puis là, ça ne marchait pas. Puis, quand tu es en avant d'un grand public, puis tu es en train de faire cette démo-là, puis que là, tu n'es plus capable d'associer ta connexion Azure, tu as l'air un petit peu nono, hein?
Oui.
fait que là, vous allez tous voir mon mot de passe super savant.
C'est juste des points difficiles.
Puis, il va-tu demander le code? Ah, merveilleux, il ne le demande pas. Parce que souvent, il demande le code parce que je suis en deux factor authentication, tout ça. Là, il ne le demande pas. OK? Donc là, il est en train d'autoriser la subscription. Donc, je présume qu'après que les petites barres vont être parties, c'est plus rouge. Donc, il l'accepte, c'est bien. Donc là, je vais donner un nom à mon site web. Donc là, je pourrais hard-coder le nom. Je vais hard-coder le bang, je vais l'appeler le bike, machin. Okay? Mais c'est un petit peu poche de hard-coder quelque chose. Hein? Fait que là, ce qu'on va faire, on va commencer à parler de variables. Fait que là, je vais l'appeler, je vais juste m'assurer que je ne me trompe pas. C'est ici, website name. Donc, on va l'appeler website name.
Ça fait référence au dernier épisode quand tu parlais de la liste des variables. Qui était disponible
pour le build.
Okay.
Là, les variables pour le release, c'est différent, puis c'est super important parce que c'est ça qui va faire notre gestion de configuration. Okay? Parce que là, on est en train de dire, je veux déployer dans Azure, je veux déployer ce site web-là dans Azure, je veux l'appeler quelque chose. Mais là, on est dans environnement 1. On va le renommer tantôt, là, puis on va parler un petit peu plus de ça. Là. Mais pour tout de suite, on est en train de déployer ça dans l'environnement 1 actuellement. OK? Fait que là, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va, dans le fond, comment on va le nommer, cette affaire-là. Puis quand on va aller d'un environnement à un autre, bien, on va changer le nom. On va l'appeler potentiellement différentes affaires, parce que un pour le test, un pour le QA, puis un pour la production, puis il y a des noms différents pour tester. Donc, on voudrait se servir de ça pour faire ça. OK? Ensuite, on a besoin, parce que quand ça va créer le site, on veut que ça revienne avec le URL dans Azure. Tu sais, website.azurenet.machin, là. On veut qu'il revienne. Fait que là, on va lui donner le retour. Website URL. Pas besoin de dollar sign machin, parce que c'est pas une variable qu'on envoie. C'est une variable qui va nous retourner, lui. Okay. Donc, dans ce cas-là, on ne met rien. Donc là, on serait prêt à rajouter la portion pour créer notre site web dans Azure. Okay. Donc, on a notre déploiement de notre site web. Mais maintenant, notre déploiement, il veut le déployer quelque part. Donc, où il veut le déployer, bien, il faut se créer un compte Azure puis le foutre dedans. Donc là, ce qu'on va faire, on va rajouter une tâche. Dans nos listes de tâches, on a une tâche qui s'appelle, je vais descendre un petit peu, dans Azure, tu en déploies, celle-ci. Okay, c'est Azure Resource Group Deployment. Okay? Mm-hmm. Donc, moi, je veux déployer, dans le fond, une template ARM dans Azure. Donc, je vais ajouter cette tâche-là. On va la fermer. Si vous avez remarqué, je vais retourner vite fait, là. Si vous avez remarqué, je peux déployer des bases de données Azure, je peux rouler du Azure PowerShell, il y a beaucoup d'autres affaires là, que je peux faire ici. Là, ouais. J'ai une base de données Azure là, si je voulais la déployer aussi là, avec tout ça. Là. Ouais. Donc là, j'ai mon affaire. Ça, évidemment, si on s'entend, il faut que le site existe avant que je le déploie dedans. Hein? Ouais. Fait que je vais le bouger avant, parce qu'on veut que ça fasse ça. Donc là, je vais choisir une subscription. Je vais choisir la même, évidemment, parce que ça va être à la même place.
Bien déjà authentifié.
Exact. Là, on voit que je veux créer, je pourrais faire une nouvelle ressource, je pourrais démarrer une machine virtuelle, je pourrais faire plein de patentes. Là. Dans mon cas, je veux faire « Create » ou « Update ». Puis le nom du « Resource Group », c'est le même nom qu'on avait tantôt. OK? Donc le nom, si vous en souvenez, c'était « Dollar Web ». Site name, je pense. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le nom de la ressource. Mm-hmm. Puis, où est-ce que je veux la déployer? Donc, dans mon cas, je veux la déployer dans EC-US, OK, puisqu'on est à l'est des États-Unis. Mm-hmm. Je peux l'envoyer au Canada, je peux l'envoyer un peu partout. La template particulière qu'on va utiliser pour déployer, elle a limité East-US, West-US, Donovan, il l'a limité à trois affaires. Mais je pourrais l'ouvrir et déployer où je voudrais. Là. Je vais vous la montrer d'ailleurs, la template. Donc là, justement, il faut se choisir une template. Ce qui est le fun, c'est que comme on a attaché le build de tantôt à notre patente, bien là, il dit, « Ah, t'as une minute, t'as un linked artifact qui est ton build. Bien, tu veux-tu prendre un fichier qui est dans ton build? » Oui.
Ça serait le but logique.
Je ne veux pas en inventer un. Donc là, il me donne le drop. Puis dans le drop, ben, que je vous ai montré tout à l'heure, là, on voit, je vous avais dit tantôt là, qu'il y avait déjà les templates ARM ici. Donc là, je vais prendre le website JSON, qui est la template, puis je vais passer aussi des paramètres. Donc, je vais ouvrir la même place, parce que dans le fichier, il y a aussi un paramètre JSON. OK? Donc, si on a fait un petit peu de ARM, on a une configuration qui est JSON qui dit « je veux un site web, je veux avoir
une base de données, un réseau, etc. »
Donc, je mets toutes les choses, puis il nous fait en même temps, il nous fait un paramètre, un fichier de paramètres pour dire « bien, toi, si tu as des affaires qui sont différents à chaque fois que tu vas le créer, bien, voici les paramètres que tu as. » Donc, le fichier qu'on a ici, c'est le fichier paramètres qui est là. Puis là, dans Override, nous, on peut passer le Override dans le fond des paramètres. Donc, on va y écrire sur notre ligne ici. Il y en a, puis on va aller la voir, la template, dans deux secondes. Là. Je vais faire hosting plan. Je suis ici. Hosting plan name. Ça va être le même nom. Donc, website name. Donc, je garde le même nom pour le hosting plan que le nom qu'on va y donner. Ensuite, je vais y passer le website. Website name avec un N majuscule. Parfait. Donc, on y passe la même chose. Donc, website name. Donc, encore une fois, on n'a rien hardcodé. Puis, la AI location, parce qu'il n'aurait pas pu appeler ça juste location, ça a l'air. ça va être East US. Okay? On aurait pu prendre ça en variable qui sont en variable. Je l'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Fait que là, je le mets au long, là, je l'écris parce que sinon, okay. Ça ne marchait pas. Donc, j'ai passé les overrides. On va aller vite fait ici. Je vais ouvrir ça dans une autre affaire. On va aller dans notre IOC et on va regarder le fichier de paramètres. Okay? Donc là, il y a ce fichier de paramètres-là, il y a trois paramètres dans le fond. Okay? Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait dans l'override? On a overridé, dans le fond, ces trois affaires-là qui sont à nul ici. Mais nous, on a mis nos valeurs pour cet environnement-là qu'on est en train de déployer dedans. On a mis les valeurs qu'on voulait. Donc, ce que vous pouvez voir, ce qui est intéressant, c'est que dans cet environnement-là, environnement 1, on déploie le site web, puis on y a mis tous les noms. On va aller nommer le nom dans quelques secondes. Donc, on a tout mis ça pour cet environnement-là. Là, on va faire un deuxième environnement. On va faire essentiellement une copie de lui, un clone de lui. Mm-hmm. Puis la seule chose qu'on a besoin de changer, c'est le nom du site.
Les paramètres.
Tout le reste, ça reste pareil.
Ça reste la même chose.
OK? Donc, là, maintenant qu'on a les tâches qu'on veut rouler, OK? Là, ces tâches-là, ça dit « exécute-les sur l'agent ». OK? Mais on aurait un autre mode où est-ce qu'on peut dire « rajoute une autre phase » parce que j'ai un deuxième agent puis je veux faire des affaires ailleurs puis tout ça. Donc, on pourrait rajouter des phases différentes si on voulait. Puis, le « server phase » particulièrement, là, lui, il nous donne « manual intervention ». Parce que vous le savez bien que quand on déploie des affaires, il y a tout le temps un nono quelque part. Il dit, non, faut que j'aille changer la sécurité de quelque chose de pas de temps pendant que ça déploie. Et là, nous autres, on est là, wouhou, on déploie tout automatique, ça marche bien, puis là, Roger, soit là, pas Bob, Roger, lui, il faut qu'il aille changer la sécurité. Lui, ça, il... Fait que là, on peut, à la limite, faire une intervention manuelle. Ce que ça fait, c'est que le serveur, l'agent, là, il arrête, il va en mode sleep, il envoie un courriel à la liste de monde qui sont là-dessus, puis là-dessus, on peut écrire une description. S'il vous plaît, allez changer la sécurité, machin, voici la procédure pour la faire. Fait qu'au moins, on la documente, c'est quoi qu'il faut faire. Mm-hmm. Puis on est clair. Puis quand il revient, puis il dit c'est fait, l'agent, il réhydrate, puis il continue ce qui était rendu. OK? Fait que c'est quand même le fun. On a cette option-là si on a besoin de faire ça. Donc, dans notre cas, on n'a pas du tout ça, là. Ça ne nous intéresse pas. Fait que là, je vais juste l'enlever, parce qu'on ne veut pas avoir ça. Donc, l'autre chose, le nom de l'environnement. Donc là, ça c'est facile, on commence en dev, on va l'appeler dev, là, parce que c'est comme tout le monde est habitué à ça. On voit qu'il y a deux tâches qui sont enablées, parce que chaque tâche, on peut aller en bas ici, je peux la désabler. Et ça, c'est le fun, parce que j'ai pas besoin de tout arracher mes affaires, hey, ça marchait, puis tout. Et là, j'ai la dernière patente que je veux tester. Je ne veux pas nécessairement passer à travers tout ça. J'ai copié les fichiers déjà. Toi, tu veux juste comme... Peux-tu juste comme...
Tester une partie.
Fait que je pourrais les désébler puis dire, parler de la release, mais fais juste faire ce bout-là. Parce que le reste, ça prend du temps, whatever. T'sais? Fait qu'on est capable de faire ça. Puis quand on les désébler, ils viennent griser comme ça. OK? Fait qu'on est capable de rapidement les voir. Là. OK? Puis là, c'est là que ça devient intéressant, le release par rapport au build, par exemple. C'est que là, on a un environnement. Donc là, on a un container qui est environnement. Qui est dev dans ce cas-là. Ça, c'est un container logique. C'est pas une machine. C'est un
config de release.
C'est ça. Mm. Puis ça peut être 10 machines, ça peut être une machine, ça peut être une base de données, un site web, un Mac. Ça peut être plein d'affaires. OK? Dev, là, faut pas se limiter à dire ça, c'est la machine de dev. Non, c'est on déploie en dev.
L'environnement.
Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? Puis là, on les met toutes ici. Toutes les affaires qu'on veut faire en dev, on les met toutes là.
On pourrait avoir, par exemple, si on avait plusieurs builds de plusieurs projets différents, on pourrait avoir un environnement qui inclut le résultat d'un peu tout ça pour déployer sur différentes choses, toujours dans le cadre d'un environnement de dev.
Tout à fait. Parce que, par exemple, dans Artefact, tu vois que là, quand on a choisi, on avait choisi Bike 360, notre seul build, comme étant un artefact qu'on voulait utiliser.
Ouais.
Mais je pourrais cliquer sur « Linked Artifact Source », puis si on en avait plusieurs builds, je pourrais linker plusieurs builds. La nuance, c'est que quand on va démarrer un build, pas un build, un release, il va nous demander quel build tu veux déployer. Et si on en a plusieurs, bien là, il faut que j'ai choisi.
Il faut quand même les choisir.
Okay? Par défaut, il va dire le dernier, le latest de toute la gang. Et je pourrais lui dire, non, lui, je veux le build avant, puis lui, je veux le build là, puis fait qu'on pourrait customiser. Okay. Le problème avec ça, c'est qu'évidemment, si tu veux le repartir, là, il faut que tu choisisses les bonnes affaires. Okay? Sinon, ça ne marche pas. Fait que faut faire attention là, dans ces cas-là, okay? Mais c'est possible. Donc, quand je suis dans Dev, j'ai des paramètres de Dev. Okay? On va parler des approvers tantôt, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la configuration. Donc, la configuration, ben, c'est des affaires par défaut qu'on a là. Puis, si vous vous souvenez, on a...
Il nous manque notre fameux website name.
Exactement. Merci, Bruno, de nous garder
en ligne.
Donc là, on a besoin de... Ici, on ne met pas $ en parenthèse parce que c'est en fait le nom de la variable. Okay? Oui. Donc, on la met ici. Puis dans notre cas, on va l'appeler bike 360 bracket show développement. Mm-hmm. OK? Donc, ça va être le... Parce que si on regarde les sites web...
Azure, ça va devenir l'URL...
C'est ça. Ça va être byte360bsd...
Azure website...
.azurewebsite.net.
Ouais.
OK? Donc là, on a ça. Puis l'autre variable, c'était le URL. Website URL. Celui-là, ça va revenir là-dedans. Donc, on n'a pas besoin de mettre de variable.
Mais il faut qu'on la déclare comme existante pour que le reste...
Le système la reconnaisse. OK? L'autre chose, vous avez remarqué ici, il y a un petit cadenas au bout. Mm-hmm. Si je pèse sur le petit cadenas, ça cache des affaires. Mm-hmm. Donc, si je veux mettre des mots de passe, je peux mettre des mots de passe, puis okay. Les cacher. Quand ils sont cachés, on ne les voit plus. Quand je suis là, puis je n'ai jamais fait OK, si je reclique dessus, il me le remonte. Si je faisais OK là-dessus, puis on retourne, puis j'enlève le cadenas, c'est effacé. OK? Donc, je ne peux pas venir, moi, par après, puis dire, hey, c'était quoi le mot de passe? Non, non. Donc, quand je suis là, dans cet écran-là, si je fais ça, je peux faire ça, puis il va rester là, là. Mais si je faisais OK, puis j'avais fait private, puis je reviendrais, puis j'enlèverais le cadenas, il n'y aurait plus rien.
Ou si on le faisait, par exemple, sur le administrator login password qui est plus haut, là, ça l'effacerait.
Exact. Parfait. Puis on ne veut pas faire ça, parce que je ne sais même pas c'est quoi.
c'est mais on voit que ça nous dégénère. Ça prévient quand même le fait de quelqu'un qui voudrait retourner, puis retourner.
Essayer de
prendre des mots de passe, par exemple,
exactement.
C'est ça.
Puis ces mots de passe-là, quand il y a un mot de passe, mais quand il y a un privé comme ça, parce que vous avez vu dans le log, quand ça a fait le build, on voyait toutes les affaires, ça écrivait toutes les variables qui passaient. Mais ces variables-là vont avoir des étoiles. Masqués. On les verra pas. Okay? Donc, ça nous donne quand même là, cet effet-là. Donc là, les autres affaires, on va parler, quand on va parler de multi-environnement, d'un point de vue général, ben c'est qui le owner de cet environnement-là? Parce que peut-être que le owner, ça peut être un PO ou quelque chose, puis là, il veut savoir, lui, y a-t-il quoi qui a été déployé dans mon environnement? Parce que, tu sais, c'est normal. Donc, le owner de l'environnement va recevoir des courriels. OK? Quand il y a quelque chose qui arrive, il reçoit un courriel. Peu importe ce qui arrive, déployé, fail, go, ouais. Il va recevoir un courriel.
Et tu peux en ajouter aussi, j'imagine.
Oui, puis tu peux lui dire, tu sais, envoie-moi toujours des courriels, juste quand ça ne marche pas, ou envoie-moi-en jamais. OK? Là, moi, je suis aussi le owner puis le creator des releases, OK, d'un point de vue sécurité. Donc, on a rajouté nos variables, on dit go là-dessus, on va faire une sauvegarde, on va dire go là-dessus. Et puis, là, il y a un nom à coucher dehors. Puis, les dialogues ne sont pas tout à fait tout le temps bien arrangés, là, fait que là, il faut aller sur le petit gugus ici. On va l'appeler bike 360. Qui est notre, encore une fois, on va le garder le même nom parce que c'est quand même ça notre affaire. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas oublié, il y a un historique et puis on voit ici que j'ai sauvegardé.
On a
deux
les
fois.
Traces de okay? Ce que tu as fait comme changement.
Exact. Donc ici, qu'est-ce que j'ai changé dans le fond, c'est le nom. Hein? Donc on va regarder puis il va nous dire ça s'appelait Azure machin, puis je l'ai rappelé Byte 360 puis le dernier.
On a vraiment le même principe qu'avec les builds, mais au niveau des releases aussi. Donc. Aucune chance de perdre la trace de quelqu'un qui aurait brisé notre environnement.
Puis on peut rollbacker de la même façon, puis ramener une affaire qui marchait avant, puis tout ça. OK? Donc là, essentiellement, on a un environnement. La tâche, c'est fais-moi un site web dans Azure, puis après ça, déploie mon site web dedans. OK? Fait qu'on va nous créer un release. Puis là, ce que je vous mentionnais tout à l'heure, donc il dit, si j'ai multi-artefacts, bien là, j'aurais la liste de tous les artefacts, puis là, il faudrait que je choisisse le build.
C'est là qu'il faudrait choisir.
Okay? Parfait. Là, celui-là, c'est j'en ai juste un, je n'ai juste fait un build. Fait qu'il voit le build que j'ai en question. Puis là, il dit, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux partir dans la liste tout de suite après que je dis OK, quand je fais Create?
Ouais.
Ou bien, est-ce que je veux le faire de façon manuelle? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire, fallait de façon manuelle, je dis crée le release, mais il n'y a rien qui arrive. Là, je vais ouvrir ce release-là, puis je vais lui dire « OK, go parler maintenant.
Ouais. »
OK? Donc, ça nous donne un temps mort, si on veut. « Oh, attends, je vais aller comme changer. » Parce que toutes les affaires qu'on a mis, les variables, les affaires, on peut tout aller changer
jusqu'à
temps que le release parte.
Okay.
OK? Donc, dans le cas, on va lui dire « Fais juste le partir tout de suite. » Okay? Donc, on va dire Create. On a un petit lien ici qui dit Release 1. Fait qu'on peut aller voir notre release. Puis là, il dit, là, il serait prêt, il est in progress. Donc, je vais cliquer sur log ici en haut. Puis là, on a un agent qui attend, OK, pour partir. Fait que comme on est hosté, bien là, ça, ça vous donne une idée. Là. Des fois, quand tu es hosté, tu es le prochain dans queue, mais
on attend. Des fois, tu en as plusieurs.
OK. Donc, là, on attendait que l'agent parte. Donc, il a parti pendant qu'on on attendait. Puis là, on voit qu'il est en train là, il a créé le site web Azure qui était ici. Et puis là, il est en train de déployer, dans le fond, le site web dedans. Ça devrait vraiment pas prendre très, très longtemps. On voit qu'il a terminé là. Voilà. Donc, il a terminé son déploiement. Il va revenir dans l'écran d'avant puis il va dire « j'ai terminé ». Là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait rouler des load tests, on pourrait rouler des tests de fonctionnels avec Selenium, mettons, pour aller cliquer des boutons et tout. Donc, toutes ces choses-là, on les aurait dans le sommaire, on verrait les systèmes de travail qui sont attachés après, on verrait les tests qui sont roulés s'il y en avait. Je pourrais aller ici, on verrait tous les tests qui ont été roulés automatiques, tous les systèmes de travail qui sont faits. Puis, vous remarquez ici que j'ai un compare là, j'ai pas vraiment de comparaison parce que j'ai pas de système de travail. Mais si j'avais plusieurs releases, je pourrais comparer entre deux releases, c'est quoi les systèmes de travail. Fait que là, nos espèces de
release notes
sont là.
Ça bâtisse avec ça. Ouais.
Puis, même affaire avec les commits. Toutes les commits qu'il y a eu entre deux releases, on est capable de les voir. Fait que là, tu peux voir qu'est-ce qu'il y a eu entre deux builds. Mais ça, c'est pas vraiment intéressant.
Non, parce que tu peux faire plusieurs builds avant de faire un vrai release.
Exact. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'entre deux releases, qu'est-ce qu'il y a eu?
Tout à fait. Okay?
Fait que là, c'est là qu'on est capable de faire un peu toutes ces choses-là. OK? Donc, je vais revenir ici. On voit qu'on a un environnement. C'est vert. Ça a marché, notre premier release. Tout est beau. Ça va on track comme on s'en doutait. Ensuite, si je vais dans Overview, on verrait toutes nos définitions de release. On verrait tous les environnements dans lesquels ils sont disponibles pour ce release-là. Puis, on verrait aussi que, s'il y en avait plusieurs, on va en avoir tantôt, on va en avoir plus. Puis, on verrait quelle release est dans quel environnement. Mm-hmm. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on déploie notre premier build, que notre premier build, ben il est rendu en dev, puis en test, puis en prod. Il est peut-être juste en dev. OK? Fait que ça se peut qu'on déploie en dev 45 fois avant qu'on ait un QA même.
Ouais.
OK? Puis la même affaire en production, ça peut être comme
ça encore plus un pipeline.
Donc, ce qu'on parlait, tu me parlais tantôt des pipelines Azure, bien ici, c'est ici qu'il fait ses pipelines. C'est, là que c'est là que c'est fait.
OK.
Okay? Donc, on va rééditer notre release ici. Puis, dans le fond, on a toute notre information. Je vais aller en haut ici. Si on s'en souvient, c'était bike360bsd.azure.
Websites.net,
je pense. Ouais. Donc, ça c'est notre site qu'on a déployé. Donc, pour prouver à notre audience qu'on ne fait pas rien en dessous découverte, je le fais en avant de vous autres. Là. Fait qu'on y va. Là, il démarre pour la première fois, donc c'est toujours plus long.
Toujours un peu plus long.
Puis on est quand même sur le tiers gratuit.
Toujours. OK. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais que c'était un faire un nouveau projet. Là,
exact.
Ben, c'est ça que c'est.
C'est ça.
OK. Donc, mais on voit qu'il a été déployé. OK. Puis c'était ça qu'on voulait. Donc, on a maintenant, en dev, on a poussé ça là. Donc là, ce qui est intéressant avec le release, c'est justement c'est qu'on n'a pas juste un dev. On a plusieurs environnements. Donc, on pourrait servir des slots, puis dire je déploie dans ce slot-là, puis après ça, je déploie dans la slot de production, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? Vous allez voir, c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus clair que d'utiliser des slots. Mm-hmm. Okay? Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est je veux partir de dev, puis j'aimerais ça faire un environnement de QA.
Ouais.
Okay? Donc, est-ce que je m'en vais faire ajouter un environnement, et puis je choisis des Gugus, puis il va me faire un nouvel environnement, puis il va falloir que je drague, puis je remplisse toutes ces affaires-là encore? Ça ne m'intéresse pas.
J'ai l'impression que non.
Non. Okay? Donc, on va peser les trois petits points, puis là, on a une affaire qui s'appelle clone environnement. Il va faire un clone. Il va nous poser la question, est-ce que tu veux automatiquement approuver? Puis là, on va parler des approvals, parce que ça, c'est là que ça commence à avoir la force de toute cette affaire-là. Donc là, en dev, on a dit, quand il y a un check-in, build, envoie-le en dev, puis fais juste l'envoyer, écrase ce qu'il y a là, même si moi, si Bruno, tu es dans le milieu d'une affaire, puis ça va changer.
Ça passe.
C'est mort. C'est dev.
Ouais.
OK? Fait que là, on dit automatic approve. Ça veut dire, quand ça arrive, go déployer. OK? Puis en sortie, c'est la même chose. Donc, on a deux gates, si on veut, pour l'approval. On a avant que ça déploie, après que ça a déployé. OK? Pourquoi on en a deux? Bien évidemment, avant, c'est, il y a peut-être sans QA, puis il y a quelqu'un qui est en train de tester, fait qu'on veut dire « Wouh! Je veux dire go parce que je suis en train de faire de quoi? » Ça, c'est l'avant. Là, si quelqu'un dit « Go », ça déploie, puis après ça, ça dit « Wouh! Je veux valider que ça s'est bien fait. » OK? Donc, mes QA, ils veulent avoir un gate en sortie pour dire « T'as une minute, je vais aller cliquer mes affaires, c'est beau, ça marche bien, j'approuve. » Là, ils vont dire « J'approuve en sortie. » Là, ça va aller dans le prochain. Ça va dire « Hey, tu veux-tu déployer? » Encore une fois, on peut mettre des gates et dire « Non. »
Input, output, puis tout.
Ouais. OK. Fait que c'est comme ça marche, l'approval. Dans notre cas, pour aller en QA, on va dire « Oui, 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 je veux que Étienne approuve. » OK. Je veux que… Là, j'ai juste un tenant. J'ai juste une personne dans l'affaire. Fait que, évidemment, je veux, moi, approuver. Là, il y a, évidemment, il y a des barrières contre ça qui est… on va le regarder quand je vais regarder les approvals, là, qui est l'approuveur ne peut pas être celui qui a QA le release. Parce que ça fait pas de sens.
Parce c'est comme s'ils s'auto-approuvaient d'un certain
c'est
sens.
C'est
quand
même, je cue des releases, puis ouais, ouais, vas-y. Moi, c'est une option. On peut dire c'est correct, n'importe qui peut faire ça, mais c'est aussi une option de dire,
Fait que là, empêcher qu'il y ait des passes droites.
C'est ça. Puis là, le trigger, c'est déploie automatiquement à chaque fois que ça a bien déployé en dev. Mais comme on a mis un gate, bien là, il va arriver puis il va dire « Je veux déployer! » Puis ça va arrêter.
Ouais.
Ça ne déploiera pas tout de suite. Mais il va le trigger tout de suite après qu'il va avoir
fini le dev. Il va le déclencher.
OK? Fait qu'on va dire « Create ». Là, il va nous créer une copie de dev, évidemment. Mais moi, je ne veux pas que ça s'appelle copie de dev. Je vais l'appeler « QA ». OK? Puis là, si on regarde l'autre portion qu'on n'a pas regardée tantôt, qui était les deux autres, les conditions puis les approvals. OK? C'est ça qu'on ne regardait pas. Donc ici, ça dit « En pré-approbation », avant que tu déploies, je veux que Étienne Tremblay dise go. OK? On va le faire, vous allez voir ce que ça fait. Le petit more option ici est bien important. Si j'ai plusieurs utilisateurs, parce que je peux en mettre plusieurs, donc je peux dire tous les usagers qui sont sur la ligne ici d'approval, dans n'importe quel ordre, mais il faut tous qu'ils disent oui. OK? L'autre, c'est tous les usagers qui sont sur là, mais dans la ligne, dans l'ordre que je les ai mis là. Et tu sais, ça peut être le QA, son boss, le grand boss, puis le CEO.
Il ne veut pas se faire déranger n'importe quand, fait que lui, il va juste en dernier.
Si il va être en dernier. Si tous les autres ont dit go, ben lui, il dit OK, va en prod. J'approuve, là, vas en prod. Mais on ne ferait jamais ça, là, ça serait. Mais là, c'est dans cet ordre-là. Mm-hmm. Puis le dernier, c'est n'importe quel.
Un
de la gang.
Premier qui dit. Okay?
Là, j'ai mis des usagers. Quand on a un tenant Azure, on a des groupes dans Azure, comme dans Windows, puis on peut mettre un groupe ici. Fait que c'est n'importe qui dans ce groupe-là, par exemple. OK? Puis après ça, c'est automatically approve auto-triggered deployment to this environment for users who have approved deployment to the previous environment. Ça, c'est nouveau, là. J'avais pas vu ça. Il y a tout le temps de nouvelles affaires, là. Fait que là, ils disent, bien, ceux qui ont approuvé l'environnement d'avant, bien, s'ils l'ont approuvé, bien.
Ils approuvent le step d'après.
Auto-approve. OK? Ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire, souvent. Puis là, post-déploiement, mais c'est la même chose. Si je clique là-dessus, je peux mettre des usagers, j'ai les mêmes options. OK? Donc, j'ai un pré et j'ai un post. Puis là, c'est « Envoie-moi un courriel quand tu vas l'envoyer pour l'approuva. » Ce que ça fait, c'est envoyer un courriel avec un lien qui va nous amener sur ce site-là pour approuver. Puis je vais vous le montrer parce que moi, il va falloir que j'approuve quand on va le faire, puis on va le voir. Puis après ça, c'est que « User creating the release cannot approve », comme je vous mentionnais tantôt.
Ouais. Okay? Ça, tu ne peux pas bloquer ça.
Exact. Fait que là, j'ai mis des choses, puis les conditions qu'on parlait tantôt, qui étaient l'autre onglet, bien, les conditions, c'est après que ça a successfully été en dev, Go commence le déploiement en QA. Okay? Si j'avais multi-environnement, par exemple, quand on va cloner QA à prod tantôt, bien, quand j'aurais plusieurs, je pourrais dire tu ne peux pas aller en prod à moins que ça l'a été en dev et en QA, puis que c'est vert. Là, tu vas automatiquement l'envoyer en prod. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas te déployer en prod, mais il va automatiquement l'envoyer à l'approbateur pour aller en prod, si les deux sont verts.
Okay.
Donc, trigger partially succeed deployments, etc. Puis, une autre affaire, je peux les céduler. Okay? Je peux les céduler. C'est un peu bizarre de dire je veux céduler un déploiement ici quand je suis en train de le configurer. Donc, je vais rarement faire ça.
Mais ça pourrait être le cas où tu dirais je ne veux pas déployer pendant les heures d'ouverture ou pendant les heures critiques. Je vais mettre juste les déploiements le soir. Il va juste déployer à dehors des heures que le monde
utilise l'application. Mais ça, tu peux faire ça quand tu approuves aussi.
Aussi.
OK? Donc, quand tu dis, quand ça m'arrive, ça va m'arriver à moi, là, ça va dire, hey, tu veux-tu aller en QA? Ça va arrêter. Là, je vais dire, je veux approuver. Là, il va m'amener un dialogue, puis il va dire, quand est-ce que tu veux? Tu veux-tu le faire right now ou tu veux-tu le pousser à vendredi soir à 8 h? Ouais. Parce que là, moi, je peux dire, foutre-les à 8h vendredi soir. Là, il y a un timer là-dedans, il check, puis à 8h vendredi soir, il part. Nice. OK? Fait que là, ça voudrait dire que je voudrais avoir un environnement, un déploiement cédulé tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que ça va en QA, c'est toujours les mercredis soirs.
Mm-hmm. Il y a des places que c'est comme ça qu'ils veulent avoir un release, tu sais, timé à chaque. Peu importe si on release rien ou un feature, on le release à chaque.
Exactement. Donc, je sauvegarde ça, je sauvegarde notre environnement, je fais la même affaire, je vais créer un nouveau release, on va l'envoyer. Là, ça dit automatique quand tu pars, automatique après que c'est envoyé en dev.
Mais là, on n'a pas changé notre variable de website.
Il y en a qui écoutent. Hein,
parce que là, est-ce que lui, il y aura une vérification au niveau du fait que tu veux réécraser ton même environnement?
En fait, il n'aura pas.
Il n'aura pas. Donc, on l'écraserait.
On irait par-dessus.
Chose qu'on ne veut peut-être pas faire en ce moment.
On ne veut pas faire. Parfait. Absolument. Donc, c'est on voit qu'il y en a qui écoutent. Hein?
Ta variable d'environnement, est-ce que ça aurait pu être une combinaison de variable d'environnement et nom de variable et nom du website ou nom de l'environnement?
On pourrait avoir notre bac 360 qui serait constant partout, puis seulement avoir dev, QA, prod.
Absolument. On les mettrait ensemble, puis on le ferait avec ça. Absolument. Là, je vais vous montrer une autre affaire que je ne vous ai pas montré tantôt parce que c'était peut-être moins d'intérêt. Il y a une section environnement qu'on regardait, mais il y a aussi une section variable ici. Donc, la variable ici, c'est comme des variables globales à tous les environnements. Donc, si on a un nom d'usager qui est pour les bases de données, mettons, puis qui est sharé dans tous les environnements, bien, au lieu de chaque environnement avoir username, password dans chacun, bien, on peut le mettre ici, puis c'est global, c'est $ machin, on va le chercher. Okay? Mais comme le nom du site web change à chaque fois, comme tu l'as si bien dit, bien là, il faut qu'on modifie le nom. Donc, on a le choix d'aller dans environnement, d'ouvrir QA, d'aller dans Configure variable, puis de le changer ici. Mais je vais vous montrer une affaire plus intéressante. Quand on va dans variable, l'affaire que personne sait, c'est introuvable de personne, c'est tu peux cliquer là-dessus. Il n'y a pas un drop-down, il n'y a rien. Mais tu peux cliquer là-dessus, puis faire environnement. Puis là, on voit tous les environnements.
Oh shit, OK.
On a moyen de facilement comparer.
Je peux venir ici, puis je peux lui dire c'est QA. Parce que, merci, tu m'as bien dit, sinon on aurait déployé encore dans BSD les deux. Mais là, c'est le seul qu'on a besoin de changer, puisque c'est le nom du URL dans le fond qu'on change. Donc, je le change ici, puis c'est tout. J'ai juste besoin de faire ça. Mais on a une belle vue ici. Donc ça, Microsoft va le changer. Il va avoir une vue plus discoverable là, de ça, parce que c'est comme impossible à savoir que tu peux faire ça. Okay? Moi, je ne le savais pas avant que quelqu'un me le pointe, puis c'est comme, tu peux faire ça, c'est bien cool.
C'est
donc, là, on est prêt à releaser, d'accord?
Parfait. Ouais.
All right. Fait que là,
j'approuve.
Tout est beau, on fait release là-dessus, on va à notre release numéro 2. Là, on va voir que notre release numéro 2, ça va partir. On arrive sur le même écran que tantôt, mais là, on voit maintenant qu'on a deux environnements. Mm-hmm. On a dev puis QA. On voit qu'on peut canceller un déploiement qui est en cours, si on voulait, ce qu'on ne fera pas. On voit qu'on est in progress, donc je peux retourner au log. Puis là, notre log, maintenant, on voit dev, donc on voit dev ici. Puis, on voit QA maintenant. Le QA, il n'est pas encore déployé, évidemment. Il est là, il nous attend. Fait que là, il redéploie en dev, le même site que tantôt. Donc, on l'a vu que ça marchait tantôt. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas encore. Puis, comme on fait exactement la même chose, mais pour un autre environnement qui va s'appeler QA à place, il devrait pas avoir de problème. Mais c'est pour ça qu'on fait des releases multiples avec des nouveaux noms pour s'assurer que, justement, on est capable d'en faire plusieurs. Puis, c'est un peu le but là, de faire ça. Là. Okay. On voit ici, pendant que ça fait ça, qu'on peut downloader tous nos logs de ce qui est arrivé ici. On les voit. Puis c'est la même chose qu'avec les builds. Hein. Si je clique n'importe quelle des étapes, je peux voir là, juste cette étape-là, qu'est-ce qui s'est passé. Okay? Donc là, ça, c'est notre agent. Donc, il a commencé son déploiement là, du site web. Et puis, je peux abandonner un release si je veux. Ici, on voit qu'il y a déploi. Donc, tantôt, là, je vous mentionnais, on pouvait le faire de façon manuelle. Okay? Donc, si j'avais trigué un environnement, puis j'avais un déploiement, puis j'avais dit « fallait de façon manuelle », il aurait fallu que je vienne ici. Ah ouais, lâche-moi.
Pour le sélectionner,
puis le partir. Mm-hmm. Okay? Donc là, il a arrêté. Okay? Techniquement, là, je reçois un courriel. Ça me dit « Hey, bonhomme, il faut que tu approuves. » Moi, je suis Étienne, je suis l'approuveur. Là, okay? Puis quand je clique sur le courriel, j'arrive ici. Drette là. Okay? Fait que je vous mets à la même place, j'aurais ce lien-là. Là, ce lien-là, dans le courriel, là, puis ça m'amènerait drette ici. Okay? Pour
continuer la job.
Donc là, ça me dit, est-ce que tu veux approuver ou pas? Parce que tu es le pre-approver. Là. Donc je vais cliquer approve. Puis là, il nous dit, Est-ce que tu veux approuver right now? Est-ce que tu veux approuver plus tard? Est-ce que tu veux le pousser à une autre date, comme je vous mentionnais tout à l'heure? Mm-hmm. Puis, je peux réassigner aussi. Donc ça, c'est important. Moi, je suis le tenancier de ce tenant-là. Donc, je suis God partout. Okay? Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Okay? Évidemment, tu n'es pas God de TFS, de toutes les affaires. Là, je le suis. Donc, si j'ai dit que le pre-approver, c'était Eric, puis Eric, il est parti en vacances. Puis il est le seul. Là, on est comme bloqué. C'est comme shit. Il n'y a rien qu'Eric qui peut peser le piton, puis il est parti. Fait que là, le tenant, c'est lui, il peut venir ici, puis il peut cliquer sur approve. Lui, il a le droit d'approuver tout le temps, lui.
Mais s'il n'a pas la capacité d'approuver, il peut déléguer ça à quelqu'un d'autre.
C'est ça. Donc, moi, je peux venir ici, puis dire, bien, pas juste que je n'ai pas la capacité. C'est je ne veux pas nécessairement approuver.
Parce que tu n'as pas la responsabilité.
C'est ça. Moi, je veux que ça soit clean que dans le log, parce qu'évidemment, le log qui a approuvé, c'est tout dans le log, là.
C'est ça.
Donc, moi, je veux que ça soit Bruno qui soit le responsable. Donc, je vais le réassigner à Bruno. Okay. C'est Bruno qui va avoir il va recevoir un courriel. Puis il va pouvoir venir ici, puis cliquer « Approve ».
Sur le même écran, faire le même processus.
Exactement. Okay? Donc là, dans notre cas, on va juste dire « Approve » direct. Okay? Puis là, tout de suite, il l'envoie en QA, il est prêt à partir. Parce qu'on n'a pas mis un stop en QA, enfin, on en a mis un en pré, on n'a pas mis un en post.
Ouais.
Okay? Donc là, il va partir son déploiement. La même chose que là, il est en pré-déploiement, il attend l'agent probablement là, pour déployer. Ouais. Puis il va partir. Fait que là, si on regarde le sommaire, on va voir que ça, c'est « Succeed ». Lui, il est encore en attente de l'agent, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore not deployed. Puis, si on retourne, par exemple, à Byte 360, on va voir que là, il est bleu. Ça veut dire que par le temps que je clique le bouton, là, l'agent il s'est allumé. Là. Quand c'est bleu, c'est in progress. Fait que là, maintenant, on voit que j'ai deux environnements. Okay? Si j'avais prod, pré-prod, prod, bien, j'en aurais quatre. Fait que ce qui est bien le fun de ça, c'est que là, je peux venir ici, puis je peux, mettons que j'ai quatre environnements, dev, test, pré-prod, prod, mettons. Là, je peux dire, je vais déployer en dev 50 fois, mais ça ne va jamais aller après. Donc, je ne ferai même pas un auto-approve en QA. Je dirais que l'équipe, le Scrum, ensemble, le matin, ou le
on décide on si dit, on va en QA ou pas.
On s'en va en QA, ça, tout le monde est d'accord. OK, quel build? Le point 4, celui-là, là, c'est lui qu'on va en QA. On irait de façon manuelle, on queuerait en QA, puis on dirait go, part en QA. Mais là, tout, fait que là, ici, dans ta colonne, tu aurais vert, rouge, vert, tu sais, le normal. Tout le reste, ce serait gris. Ce serait comme ça n'a jamais été. Puis là, tout d'un coup, tu aurais une ligne ici, que ça serait vert, rouge, production, attends, whatever. Mais tu serais capable de voir, ah, tous ceux-là, là, c'était des CI.
En un coup d'œil, tu es capable de voir où tu es rendu.
Puis si on regarde dans Overview, bien là, on voit que j'ai mon dev, puis il est en train de déployer en QA. Puis on voit que le release 2 est en dev, puis le release 2 s'en va en QA. Okay? Mais si je déployerais release 3 en dev, ben il serait encore release 2 lui, jusqu'à temps que j'approuve et qu'on passe la chaîne. Donc, on pourrait voir là, toutes les versions de chaque release. Puis quand je regarde le release, ben je peux cliquer sur le release, puis on tombe au même log là, qu'on était tantôt. Bon, il succède pendant le temps qu'on parlait. Fait que là, les deux, tout est là. Ça dit, ça a été manuellement trigué. C'est master qui est parti, quel build on a utilisé, quel environnement ils ont été passés, les commits qu'il y a eu. Là, tu vois, là, je peux comparer entre deux releases parce que j'ai deux releases maintenant. Avant, j'en avais pas. Bon, les variables qu'on parlait tout à l'heure, de façon générale, les releases, ils s'appellent release 1, 2, 3, là, mais si tu veux mettre des vrais noms de releases, tu mets le release que tu veux. Là. Ouais. Tout est ici. Donc, ça vous donne quand même un bon aperçu là, de... qu'est-ce qu'on peut faire pour releaser? Puis vous avez vu que c'est très facile de rajouter des environnements.
Ouais.
De chaque environnement, on peut venir ici puis on peut enlever ou rajouter des tâches.
On pourrait même en désactiver une temporairement pour un environnement parce que dans cet environnement-là, ça ne vaut pas la peine de rerouler
puis,
ça.
Puis quand on parle, là ça a tout l'air bien beau puis facile. Puis quand on s'entend, là, c'est beau puis c'est facile. Là,
oui. Okay?
Mais. Dans la vraie vie, des fois, il y a des enjeux. Là. Par exemple, je m'en vais en dev, j'ai une machine. Je m'en vais en QA, c'est une ferme, quatre machines. Là, qu'est-ce que je fais là? Okay? Fait que là, c'est les mêmes tâches, mais là, par exemple, je répéterais cette tâche-là quatre fois, une pour chaque machine, par exemple. Okay? Puis là, Microsoft sont en train de rajouter des affaires où est-ce qu'ils vont envoyer, un peu comme Octopus, ils vont envoyer des tendrils, donc des petits agents, puis à la limite, ça va être le même agent encore, là, mais ils vont le déployer sur les machines.
Chacune va tirer son
puis là, va tirer qu'est-ce qu'elle a besoin. Okay? Fait qu'ils sont en train de s'en aller vers ce mode-là, là, mais là, actuellement, c'est pas comme ça. Là, okay? Donc, il faudrait qu'on pousse sur chaque machine ou on installe des agents sur les machines nous-mêmes, parce qu'on peut. Mais là, à ce moment-là, il faut faire des pools d'agents particulier parce que on le sait que si dans le pool d'agents, on met un agent qui est sur une machine, puis on met un agent qui est ici, puis c'est dans le même pool.
Les deux peuvent prendre les billes n'importe quel.
Exact. Puis ouais. Les deux peuvent. Fait que là, la machine de production, où est-ce qu'on est en train de déployer dessus, est en train de builder les affaires. Là, c'est bon, comme non. Là. Okay? Fait que là, on veut faire des queues différentes pour dire ça, c'est des queues de release. Donc, quand je dis roule sur l'agent, je choisis mon queue ici que je veux utiliser. Donc, je dirais, bien, cette boîte-là, run on agent, je choisirais le queue de release. Puis là, ça serait comme une machine. J'aurais comme une autre machine, je ferais un autre queue avec un agent dedans. Je choisirais l'autre machine. Donc, tu sais, c'est pas super.
Pas encore intégré, mais Microsoft s'en va vers ça, puis ils vont faciliter l'expérience contre le reste pour que ça soit.
Là, pendant qu'on est là, on n'a pas parlé de ça pendant les builds la semaine passée, mais ou le show de l'autre fois, mais on peut mettre des tags, dans le fond, sur nos agents pour dire ce build server-là, il y a telle affaire que j'ai besoin.
Il va filtrer les choses qui vont être, les builds qui vont en passer sur celui-là.
Exactement. Fait que là, dans le fond, tu peux lui dire, ce que tu fais, c'est que tu fais des demandes. Je demande que l'agent ait ça. Ouais. Puis sur l'agent, ben, tu y mets un tag à l'agent pour dire, je peux faire ça.
Ça pourrait être une version de Visual Studio, ça pourrait être n'importe quelle autre capacité. J'ai une BD, j'ai pas de BD, whatever.
Tout à fait. Donc ça couvre en fait les releases, ok? Ouais. C'était le but de ce show-ci, là, c'était de voir ça. Donc ça couvre, en fait, si on fait une petite récapitulation, on a parti de la page web de Visual Studio, on a créé un tenant, on a loadé notre code de qui venait de GitHub dans notre cas, mais ça pourrait devenir de n'importe où. On a créé un build, on a créé notre output de build. Après ça, on a dit, bien, ce build-là sera le fun qui s'en aille sur un site web. Fait que là, maintenant, le show d'aujourd'hui, c'est on a pris ce build-là, on l'a déployé maintenant dans deux environnements. J'aurais pu en faire 10 environnements, je vous avais
ouais,
vu
ouais,
comment
c'est,
ça fonctionne.
Ouais, c'est
ça vaut pas, là. Fait que là, dans le fond, vous voyez un peu là, comment on fait ça. Dans le cas d'Azure, c'était relativement simple parce que j'avais, dans mon projet, j'avais déjà un ARM template. Donc, on s'est juste servi de ça. Mais il faudrait que tu le fasses toi-même, là, ton ARM template, qui n'est pas particulièrement difficile. Parce que si on va, on regardait paramètres tantôt, là, mais ça, on va voir le JSON, il y a beaucoup de blabla, là, mais dans le fond, tu sais, tu as besoin du auto-scaling puis plein de patentes. Mais quand tu vas dans Visual Studio, tu peux lui dire new ARM template puis site web, puis il va tout à faire ça pour toi.
Il te le crée pour toi.
Fait que t'as rien à faire.
On n'a pas à tout écrire ça du début jusqu'à la fin.
Ou tu peux même, si tu as déjà manuellement déployé ton site sur Azure, tu peux downloader cet ARM template et l'intégrer pour t'en faire un build avec.
Absolument. C'est un bon point. Donc ça c'est un petit peu plus avancé. Là. C'est peut-être un autre show. Là. Ouais. Tu peux peut-être aller regarder comment faire des ARM templates ou aller les chercher justement dans Azure puis les intégrer ici. Là. Mais vous voyez quand même que ça n'a pas pris énormément de temps, puis écoute, on n'a pas parlé que tu peux gérer tes systèmes de travail, ton backlog, toutes tes affaires avec ça. On n'a pas parlé qu'on peut rouler tous nos tests là-dedans, ramasser toute l'information par rapport à nos tests.
Peut-être une prochaine visite dans un prochain épisode.
Peut-être. Donc, donc comme vous voyez, écoute, on a fait un survol de qu'est-ce qui est possible, surtout d'un point de vue développeur. Donc, tu sais, le code, la rentrée, faire un build, puis faire un déploiement, qui est quelque chose que je pense que la majorité des développeurs aimeraient ça, que ça se fasse vite. Ça.
Que les développeurs veulent que ça se fasse, mais ils ne veulent pas se soucier de ça.
Exact.
Donc, ça,
mais ils n'auront pas à s'en soucier quand c'est simple comme ça.
C'est la façon de le faire sans souci, je dirais. Après ça, c'est tu pays play. En fait, une fois que ça s'est mis en place, tout ce que tu as à faire, tu codes, tu commites et ça s'en va.
C'est ça. Fait que, en 40 minutes, une heure, là, on a fait le tour. Puis là, on a jasé beaucoup. Ça se fait beaucoup plus vite, comme vous pouvez voir. Mais dans la vraie vie, ça va peut-être te prendre une journée. De le fignoler puis le faire marcher. Mais quand il est là, comme on dit, après ça, tu fais des check-ins. Ça fait tout seul.
Tout à fait.
Puis tu es garanti que tu as tes tests qui sont roulés, que tes affaires sont déployées, que tu peux aller retester dans l'environnement. Puis ce qui est le fun, c'est que ça déploie toujours. Tu sais, on n'a pas parlé de ça là, spécifiquement, mais comme les tâches sont pareilles d'un environnement à l'autre, on fait toujours la même chose. Donc quand on arrive en production, il n'y a pas de surprise, là. C'est tout pareil. Puis quand moi, je vais chez des clients, puis quand ils déploient en dev, ils le font d'une façon. Quand ils vont
en QA,
c'est
une
autre façon. Puis quand pour continuer la discussion de tantôt, je peux avoir multi-machines quand je m'en vais en QA. Puis en production, ben là, j'ai du load balancing. Fait que dans la vraie vie, ça ne sera pas facile de même. Okay? Il va falloir que... Puis d'ailleurs, quand on va déployer à l'interne, ça ne sera pas des tâches de même. Ça va être généralement, tu vas draguer des PowerShell. puis tu vas juste exécuter des PowerShell. Ouais. Tu sais, tu vas dire, copie cela, fais ça, fais tes affaires. S'il y a des fichiers à copier, bon, on drague les tâches de fichiers, mais généralement, là, de façon...
Par expérience, tu vas beaucoup de PowerShell.
C'est généralement un paquet de PowerShell que tu vas exécuter, ouais. Okay, pour déployer tes affaires. Puis là, c'est là que, d'un point de vue DevOps, c'est là que tu ramasses le gars d'IT, qui lui, il a déjà toutes ces PowerShell-là pour déployer.
Donc, comment, il peut les intégrer dans son environnement de déploiement.
Donne-moi-les, on va les mettre sous version control. Comme ça, après ça, si ça change, on va savoir ce qui s'est passé. Puis après ça, on va arriver ici, on va pointer sur le PowerShell, on va dire exécute ça, tiens, 3-4 paramètres, le nom de l'environnement, le nom de ci, ça. Puis, paf, ça envoie les bons paramètres au PowerShell. Puis, tout le monde est. Tu sais, le gars de production, il sait ce qui se passe, c'est lui qui l'a écrit. Mm-hmm.
Super.
Donc, voilà.
Parfait, merci.
Merci.
Ça fait plaisir.
Donc, merci beaucoup, Étienne. Ça conclut notre épisode aujourd'hui, deuxième épisode sur tout ce qui était Team System pour se faire un environnement de déploiement. J'ai pas d'autre mot que facile. Je pense que c'était vraiment.
Il y a un autre mot, gratuit.
Effectivement. Donc, merci beaucoup encore une fois. Ça a été. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui vont pouvoir s'accrocher à une solution comme ça pour partir des projets autant chez eux que pour des startups, dans des petites entreprises qui ne veulent pas peut-être investir pour des serveurs, ces choses-là. Une belle solution.
C'est bien que tu mentionnes parce que, tu sais, tantôt on a dit qu'il y a 5 usagers gratuits dans l'épisode d'avant. Tu sais, c'est les bisouneux à la maison, là, dans le cave, là, c'est parfait ça. Tu sais, au lieu de mettre ton code sur ton ordinateur puis ça se peut qu'il explose puis tout, mais elle est là-dedans, tu sais, au moins tu le perds pas, au même titre que tu le mettrais dans GitHub. Là,
tout à fait.
Ouais. Mais GitHub, c'est public.
Ouais.
Tandis que ça, c'est privé.
En plus.
Okay? Donc, fait que ça, c'est l'autre. C'est l'autre.
Et GitHub ne va pas le compiler pour nous, ne va pas rouler nos tests.
Il ne va pas le déployer.
Il n'y a pas toute cette automatisation-là. Qu'on veut. On veut toujours aller plus vite sur le marché. On veut que tout se fasse pour nous, pour nous aider.
Et même si c'est pas GitHub, ça reste un repo Git. Tu peux accéder à ça avec les commandes Git. Ceux qui sont habitués de faire du command line Git, ils peuvent pusher leur code en Git.
C'est en fait, ils utilisent Git for Windows, puis c'est la même affaire.
C'est exactement ça.
Et je pense aussi qu'on aurait peut-être matière à se revoir dans d'autres épisodes. Je pense qu'on n'a pas vu tout ce qui était offert par la plateforme.
Tout à fait.
Ça pourrait être intéressant pour d'autres épisodes.
Mm-hmm. Ben, vos feedbacks sont même les bienvenus si vous voulez nous donner vos feedbacks sur ça, ce que vous aimeriez voir ensuite. Peut-être intégrer avec Visual Studio, qu'est-ce que ça a l'air de l'expérience d'un développeur vraiment qui va faire son build là-dedans et déployer.
Oui, vous pouvez d'ailleurs laisser les commentaires justement si vous avez des feedbacks sur la vidéo YouTube. On vous rappelle en même temps de vous abonner à la chaîne, toujours pratique pour avoir les notifications si vous vous inscrivez aux notifications évidemment. Pour les prochains épisodes et donc potentiellement un prochain épisode sur le même sujet.
Merci, bonne journée.
Merci
tout le monde.